Avant de lire ce passage, je me suis dit comment on pourrait le rendre intéressant à première lecture, parce que s'il n'y a rien de plus ennuyeux que ce passage de la Bible, et faire commencer l'évangile par ça, il fallait quand même y penser. Je ne sais pas s'il y a un auteur qui aurait pensé à commencer un ouvrage de cette manière aussi décourageante. Alors, dans un premier temps, je lui ai dit, je demanderais aux gens de lever la main chaque fois qu'il y a un personnage qu'ils connaissent. Mais j'ose pas trop le faire parce que il y en a peut-être qui vont sortir en ayant honte d'avoir levé la main qu'une fois. Mais dans vos têtes, demandez-vous, est-ce que celui-là je le connais? Qu'est-ce que j'en connais? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jusque-là, ça va, hein. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Puis, c'est là que ça va se compliquer un peu. Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Hezron. Hezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotham, Jotham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Ozias, Josias, pardon. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Achim, Achim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusque au Christ. Je vous invite à chanter, après cette lecture un peu indigeste, le cantique numéro 351, qui doit être plus connu que celui que nous avions chanté.
D'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un verra jaillit, et sur le sol du ciel, dans la une rose a fleuri.
Dans nos études bibliques et nos prédications, bien souvent on laisse de côté ces passages pourtant nombreux dans la Bible que sont les généalogies. Du coup, on passe sans s'y arrêter sur ces 17 versets qui introduisent la naissance de Jésus et qui introduisent tout le Nouveau Testament. Nous lisons généralement le texte de la naissance de Jésus qui suit sans nous intéresser à cette longue introduction qui nous permettrait pourtant, je pense, de la comprendre, en tout cas de mieux la comprendre. Je reste persuadé que si on avait un peu plus lu et étudié cette généalogie, on aurait dans le passé beaucoup mieux compris, enfin aujourd'hui, dans le passé et aujourd'hui, beaucoup mieux compris le sens de la naissance de Jésus et qu'on aurait aussi évité de nombreuses discussions, à mon sens assez stérile, autour de la question « Qui est le Père ? Dieu ou Joseph ?» Et en fait, c'est la généalogie qui permet d'éclairer cela. Et si on ne la lit pas, eh ben, on ne comprend pas. Parfaitement humain, donc, Jésus apparaît au début de l'Évangile comme occupant une place dans une généalogie. Il apparaît d'emblée comme lié à ceux qui l'ont précédé, beaucoup plus que lié au contexte religieux, culturel, sociologique ou historique de son temps. Vous remarquez qu'il n'y a rien sur le contexte avant qu'il naisse. On ne nous parle pas des Romains, de l'atmosphère spirituelle ou religieuse d'Israël, rien de tout cela. Simplement, on nous dit qu'il est précédé. Il ne tombe pas du ciel. Il porte les bénédictions et les malédictions de toute une lignée et il devra les gérer. Comme nos vies cachées s'expliquent souvent par ce qui a été dit et vécu avant nous dans nos familles, la vie de Jésus nous paraîtra beaucoup plus claire si nous admettons qu'il a une généalogie, qu'il est le produit d'une génération humaine. Nous savons d'où il vient. N'est-il pas le fils d'eux, disaient ses détracteurs. Et on trouve ça plusieurs fois dans l'Évangile. Composé donc d'hommes et de femmes connus, donc j'ai pas osé vous demander combien vous en connaissiez, mais un certain nombre en tout cas sont connus, qui ont fait donc l'histoire d'Israël, comme Abraham et David. La généalogie comprend aussi bon nombre d'anonymes dont la Bible ne dit rien. Donc, ouf, c'est normal que vous les connaissiez pas tous. Mais surtout, un nombre étonnant de personnages moralement et spirituellement douteux. Pensez à Tamar et à Judas, par exemple. Ce dernier couche avec sa belle-fille, qu'ensuite il veut faire lapider pour pas qu'on découvre la chose, et finalement il lui donne un enfant, Pérès. Vous connaissez aussi l'histoire de David et Bethsabée, ce dernier faisant tuer le mari de celle qui était devenue sa maîtresse, ou celle de Rahab, la prostituée, ou encore Ruth, qui va se coucher aux côtés de Boaz alors qu'il est saoul pour l'obliger ensuite à l'épouser pour des raisons strictement financières. Et notez donc, au passage, fait rarissime en Israël et au Proche-Orient, que plusieurs femmes sont citées directement dans la généalogie, dans la liste des ancêtres de Jésus. Tamar, Ruth, Rahab, Bethsabée, Marie. Leur présence dans cette généalogie annonce les bouleversements qui vont avoir lieu. Elle creuse déjà, dans la suite des générations, la place de Marie. Vous avez aussi entendu parler de tous ces rois infidèles qui ont succédé à David et qui se retrouvent là dans cette liste de noms précédant et désignant le Messie, ce qui n'est pas très glorieux. Il n'est pas issu d'une lignée royale pure et irréprochable. Pensez, pour n'en citer qu'un, mais on pourrait en citer beaucoup plus, à Akaz, qui a pillé le trésor du temple pour s'acheter les faveurs du roi d'Assyrie. Grandeur, héroïsme, sagesse, mais aussi médiocrité, infidélité, trahison. Il y a tout cela dans cette généalogie. L'incarnation n'est pas un vain mot. Avant de nous être présenté comme le Fils de Dieu, Jésus nous est annoncé comme le Fils d'une histoire profondément humaine. Cette généalogie est donc une manière de positionner Jésus au cœur de notre humanité en soulignant toutes les imperfections, en disant c'est là qu'il vient naître. Et il l'assume. Parmi tout ce qu'on pourrait dire encore de cette généalogie, et on pourrait parler de chacun de ces personnages en détail, je pointerai le nombre de naissances hors normes qu'elle contient. J'en ai dénombré 8. Peut-être qu'il y en a plus, mais j'en ai compté 8. 8 sur 41. Le premier engendrement, celui d'Isaac, est déjà hors norme puisqu'il y faut l'intervention de Dieu. Puis vous savez, ça passe par d'abord Ismaël qui est le fils de la promesse, mais pas complètement. En fait, c'est une histoire compliquée. Puis il y a celui de Judas et Tamar, où Judas donne sans le vouloir une descendance à son fils décédé. Juridiquement, il n'est pas le père de celui qu'il a mis au monde. Il y a là, au début de la généalogie, une première dissociation du père biologique et du père adoptif. Et il y en aura plusieurs dans la généalogie, comme cela. David, autre exemple, nous dit littéralement Matthieu, de la femme d'Uri. Il devient le père, autrement dit, de l'enfant d'un autre. Uri. Vous voyez que l'engendrement de Jésus, qui est pour le moins particulier, bien entendu, ne vient pas comme un cheveu sur la soupe après une liste de sages engendrements tout à fait normaux, entre guillemets. Non, la question de la paternité réelle est déjà bien présente dans toute la généalogie, annonçant une naissance pas comme les autres. Cette généalogie, même si on n'en comprend pas tout, nous enseigne au moins une chose de claire, c'est que le verbe engendrer n'est pas si facile que cela à conjuguer. Et aujourd'hui, où on parle de PMA et tout ça, on devrait peut-être revenir à ces textes-là. Ayant dit cela, permettez-moi encore de souligner un détail du texte. Souvent passé inaperçu, volontairement ou non, il s'agit du nombre des générations. Matthieu nous dit qu'il y en a 42, 3 fois 14. Mais comptez bien, et vous n'en trouverez pas 42, il y en a 41. J'ai dit ça dans des groupes d'études bibliques, et les gens ne croyaient pas, ils ont recompté chaque fois, mais vous pouvez compter, recompter tant que vous voulez, vous n'en trouverez que 41. Alors, pourquoi ? Matthieu ne savait-il pas compter, ou un copiste a-t-il omis une génération sans que personne ne s'en rende compte? Si tel avait été le cas, il y a bien quelqu'un qui s'en serait rendu compte et en aurait rajouté un des personnages sautés par le généalogiste, tels que Joachim ou Padilla, puisqu'ils sautent, ils sautent des générations, hein, surtout dans la période des rois, ils n'y sont pas tous. Donc on aurait pu très facilement, pour que le nombre y soit, en rajouter un. On ne sait pas pourquoi ce manque est là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y est. Un grain de sable semble être venu gripper la machine bien huilée des engendrements successifs, cette suite de 3 fois 14 générations. Et les manques dans la Bible sont toujours significatifs. Et celui-là peut signifier plusieurs choses, mais entre autres, il veut au moins dire cela, ne croyez pas que les choses sont aussi bien réglées et verrouillées que ce qu'il y paraît. La généalogie dans laquelle est venu s'inscrire le Messie, n'est pas quelque chose de parfait, donc de fermé. Il y a tous ces manquements moraux, il y a ces infidèles, il y a ce trou d'une génération. La généalogie dans laquelle est venu s'inscrire le Messie ressemble étrangement au nôtre. Et dans ce manque d'une génération, il y a peut-être autre chose qui se dit de l'origine. Dans la généalogie, il y a une autre origine, un autre type d'adoption, un autre genre de parole. C'est la place laissée à cette parole mystérieuse donnée à Marie par l'ange. Cette parole discrète pour l'instant, est pourtant à l'œuvre depuis le début dans cette liste d'engendrements qui suivent si peu les lois biologiques, sociales ou morales, annonçant que celui qui viendra conclure cette liste et l'ouvrir de manière à ce que nous puissions tous être appelés fils d'Abraham, et que Paul puisse écrire, et je termine en le citant, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Pour que nous puissions comprendre cela, il nous fallait bien au moins cette généalogie. Amen. Et je vais vous inviter à chanter le cantique numéro 359.